Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission du Collège international de philosophie, philosophie au présent. Bonjour Isabelle.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Bonjour à tous nos auditeurs de Radio Aligre. Et bien voilà, c'est la dernière, il en faut bien une hein, de l'année, de cette première année de diffusion de l'émission philosophie au présent. Et on termine aujourd'hui avec ce qu'on avait commencé la semaine dernière, un petit hommage à Clint Eastwood. Voilà, grand réalisateur qu'Isabelle et moi apprécions, et on est dans cette grande phase hein, de la philosophie au présent, notre émission dans le rapport que nous entretenons à l'esthétique. Voilà comment on peut philosopher à partir de toutes les expressions de l'art. Et puis on termine aujourd'hui avec Eastwood et Isabelle, tu nous parleras tout à l'heure de Gran Torino.
Oui, voilà, Nathalie, Gran Torino, un très grand film de Clint Eastwood. Le grand réalisateur, comme tu l'as dit, mais aussi le grand acteur, hein, puisqu'il joue aussi dans ce film de 2009, Gran Torino.
Voilà, tout à fait. Donc, je te laisserai la parole tout à l'heure. Et moi, je voudrais un petit peu faire un peu le bilan de ce qu'on s'est dit la dernière fois et peut-être revenir sur les quelques points très importants de ce réalisateur. J'ai appris, cela dit, qu'il était en train de tourner ou allait commencer de tourner son 42e film, hein, pour les gens qui se tiennent un petit peu au courant, qui va s'appeler The Ballad of Richard Jewell. Donc cette histoire d'un agent de sécurité qui a contrecarré l'attentat des JO de 1996. Voilà, donc encore un grand film d'Eastwood, probablement en préparation. Voilà, avec cette histoire également porteuse d'une forme d'injustice, hein, et de tragédie, puisque cet homme, hein, donc Eastwood, travaille surtout, enfin beaucoup à partir d'histoires vraies. En tout cas là, il s'agit de cet homme qui a essayé de déjouer, qui a réussi à déjouer un attentat en 1996 lors des JO d'Atlanta, et après qui a été accusé d'avoir fomenté cet attentat. Il a été innocenté par le FBI, mais il est mort. Il est mort d'une crise cardiaque. Donc c'est voilà le prochain film qu'Eastwood va raconter, film qu'il faudrait peut-être lier, mais là on n'en sortirait plus. Hein, si on devait s'attarder à tous les grands films d'Eastwood, ça même pas la peine. On aurait toute l'année prochaine à recommencer. Mais en tout cas, c'est peut-être un film qu'il faut lier avec un de ses précédents films qui s'appelait 15h17 pour Paris, hein, qui racontait l'attentat déjoué du Thalys en 2015. Donc voilà, on est un petit peu là-dedans. Alors qu'est-ce qu'on s'était dit la dernière fois, puisque nous avions parlé, Isabelle et moi, de deux films, moi de Mystic River et Isabelle de Million Dollar Baby. Je crois que ce qu'on avait retenu, en tout cas, c'est le travail de la part d'Eastwood, de la forme tragique. Hein, en tout cas, ça, c'était très évident pour Mystic River, hein, avec véritablement une exposition tragique en trois actes. Hein, d'ailleurs, il arrive à Eastwood de parler d'actes, y compris pour Million Dollar Baby, d'ailleurs. Hein, quand on regarde les interviews, quand on lit les interviews, il parle bien d'actes au sens tragique du terme.
Bon, oui, oui, tout à fait, Nathalie.
Voilà, il y a donc bien une construction tragique de ces films. Je citais la semaine dernière un article de Jacques Rancière, hein, qui parlait de Mystic River, je disais aux auditeurs, hein, dans un des cahiers du cinéma, vous retrouverez ça au moment de la sortie de Mystic River. Jacques Rancière a écrit sur Mystic River, mais c'est aussi sur Dogville, etc. Et donc, en développant cette idée du mal, hein, voilà, de films qui traitent du mal, et du mal à l'intérieur même de l'Amérique, au moment où on parle d'un axe du mal, mais à l'extérieur de l'Amérique, où il s'agit pour les présidents américains au pouvoir d'aller faire la guerre au reste du monde, Eastwood fait partie de ces réalisateurs qui montrent la guerre intérieure aux États-Unis. Bon. Or, ce que dit Rancière peut-être passe à côté de la dimension tragique de Mystic River. Je crois que là, on a quelque chose de fondamental et qui empêche de lire correctement les films d'Eastwood, je crois. Je crois qu'on se met à juger la filmographie d'Eastwood en pensant que ce qu'il filme, c'est lui. Or, c'est aller un petit peu trop vite quand on regarde les entretiens qu'il donne à droite et à gauche. Eastwood dit bien que oui, je peux partir de choses qui me sont personnelles, je peux partir d'une histoire vraie. Il n'empêche qu'on est au cinéma et qu'Eastwood, comme tout grand cinéaste, est quelqu'un qui aime la fiction. Hein, bon, donc, et la fiction, ça veut dire ne pas recopier le réel. Donc là, on a aussi tendance, et je crois que ça vaut pour certains films d'Eastwood, à juger cet auteur en disant, et en le ramenant d'ailleurs à ses positions politiques, en le ramenant à être un cinéaste de droite, hein, bon, dans la lignée de quelqu'un comme John Ford, par exemple. Bon, ce qui va aussi un petit peu vite, puisque John Ford avait beau être quelqu'un dit de droite, quand on regarde ses westerns, il y a quand même un parti pris et un travail sur la nation indienne et sur la singularité et la défense de la nation indienne qui est proprement extraordinaire. Alors pourquoi je parle de Ford ou par exemple de gens comme Hawks, parce que vous le savez, nous l'avons dit la semaine dernière, ce sont évidemment de grandes références pour Eastwood, hein, que l'on dénomme ou que l'on qualifie de dernier grand cinéaste classique, hein, quand on parle d'Eastwood. Bon, on voit qu'on se réfère à cette histoire du cinéma issue de John Ford, de Raoul Walsh et de Hawks.
Oui, oui. Et en effet, je dirais que ce que tu énonces là au sujet de John Ford m'invite à rappeler aux auditeurs ces westerns où il défend la nation indienne. Alors on peut penser à La prisonnière du désert, où il parle des Comanches. Ou encore L'homme qui tua Liberty Valance, hein, où il y a toujours sur ce fond, hein, de cette partie de l'Ouest américain les partis pris de politique aussi, hein, de John Ford.
Complètement. Donc là, je crois qu'on va très vite et que voilà, si on s'attarde, si on est, finalement, c'est un peu notre position, et peut-être Isabelle serait d'accord, mais c'est aussi la position que nous avons quand nous parlons aux auditeurs de cinéastes ou d'artistes plasticiens qui nous plaisent. Ce qui importe pour nous, c'est de montrer qu'il y a une pensée à l'œuvre. Et bon, et si on oublie que Eastwood, c'est pas seulement un faiseur de films à succès, hein. D'abord, bon, il tient à se démarquer de l'idée de blockbusters, hein, parce qu'il est toujours à contre-courant de ce que peuvent attendre les studios de cinéma américains. Si on voit en tout cas Eastwood uniquement comme un faiseur de films à succès, on passe à côté d'une véritable pensée. Et quand on a l'œuvre d'Eastwood en tête, hein, moi je commence modestement un peu à l'avoir en tête, on voit qu'il y a des thématiques qui se dégagent. On sera peut-être d'ailleurs amené à en parler avec Isabelle, mais à quel point on peut voir, par exemple, dans Gran Torino, des thématiques, des thèmes, ou des, un petit peu comme des notes de basse en musique, hein, qui reviennent et qui font penser, par exemple, à Million Dollar Baby. Bon, dans certains des personnages, il y a quelque chose qui traverse de nouveau le personnage que joue Eastwood, Walt, dans Gran Torino, et qui vient de Maggie Mokouchle. Donc, il y a comme ça, à travers les films d'Eastwood, même, je dirais, dans des films qui paraissent strictement commerciaux, quand on connaît bien cette œuvre, on s'aperçoit, voilà, qu'il y a des réponses, des résonances de film en film. Et c'est la marque d'un grand penseur et d'un grand faiseur de cinéma. Bon. Alors, pour revenir un peu au choix d'Eastwood, hein, puisque ça fait toujours un peu polémique, bon, c'est quelqu'un de droite, etc. Il est certain qu'au début des années 50, il le dit lui-même, au moment de son service militaire, il a adhéré au Parti républicain. Bon. Il a voté notamment pour Eisenhower. Mais il faut préciser, bon, et malheureusement, ça fait peut-être un petit peu tâche, bon, il a effectivement soutenu la candidature du dernier président des États-Unis. Il s'appelle déjà, comment il s'appelle? J'ai du mal.
Oui, j'ai du mal.
Ouais, aussi. Moi aussi. Bon, bref, peu importe, c'est pas la peine de souiller Eastwood avec ça, mais enfin, bon, c'est quand même une petite tâche, bon, voilà. Mais enfin, ce que se dit Eastwood quand même, concernant ses choix politiques, c'est plutôt de se penser comme un libre penseur. Alors, je m'attarde pas là-dessus, je laisse aux auditeurs le soin d'aller voir ce que c'est que la libre pensée, qui n'est pas tout à fait le Parti républicain, bien que, bon, Eastwood, il porte ses choix en termes de vote. Mais pour lui, dit-il, c'est véritablement essayer de n'aller vers aucun camp. Bon, bien, même s'il peut soutenir, hein, le camp des républicains. Et parce qu'il se sent assez libertaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour lui, libertaire? C'est dans le sens où, dit-il, il faudrait foutre la paix aux gens, respecter les libertés individuelles. Donc, il dit ça dans un article qu'il a, dans un entretien qu'il a donné au Cahier du cinéma, à propos du film Unforgiven. Il aurait fallu qu'on parle d'Unforgiven. Bon. J'en parlerai peut-être un peu, qui est sorti en 1992, donc c'est le Cahier du cinéma numéro 460, l'entretien. Donc, Ce qui est intéressant pour nous, et ce qu'on s'était dit la dernière fois, c'est que véritablement, il y a une pensée à l'œuvre chez Eastwood. C'est ça qui ressortait de nos deux, de nos deux choix de la semaine dernière, Million Dollar Baby et Mystic River. Et Eastwood donne un petit peu les grandes idées qui sont à l'œuvre dans son cinéma, notamment dans un article, alors dans plusieurs articles, mais en tout cas, il y a un article du magazine Première hein, qui s'appelle Clint Eastwood président. C'est au moment où Eastwood est président du jury à Cannes. On est en juin 94 et c'est au moment de la sortie d'un film, là encore, très, très intéressant et très important. D'Eastwood, Un monde parfait avec Kevin Costner. Bon, film qui a eu un très très grand succès en France, beaucoup moins aux États-Unis parce que Eastwood fait jouer Kevin Costner comme les Américains ne veulent pas le voir. Bon, c'est-à-dire, bah voilà, le héros qui meurt à la fin. Bon, et là encore, pour tous ceux qui croient qu'Eastwood est un faiseur à la manière hollywoodienne, là encore, on se trompe. Faire mourir Costner à la fin d'un film, c'est pas rien. Bon. D'ailleurs, Eastwood dira que Costner n'a jamais été aussi parfait comme acteur que dans ce film. Donc on est en 94, il donne un entretien au magazine Première, Clint Eastwood président, et il y a quelque chose voilà qui est très beau et qui va revenir aussi dans un autre entretien qu'Eastwood donne au Cahier du cinéma, cette fois-ci en mai 2005, au moment de la sortie de Million Dollar Baby. Une phrase qui revient souvent dans les entretiens d'Eastwood, c'est « Je le fais, c'est tout ». Et ce « je le fais, c'est tout » dit tout de ce cinéma, on l'a évoqué la dernière fois, qui n'est pas un cinéma idéaliste, on dirait, du pré-pensé. On ne dit pas assez qu'Eastwood, à la manière aussi de quelqu'un comme Alfred Hitchcock, pourtant Hitchcock a bien cette réputation de tout cadrer avant tout, mais on oublie aussi qu'Hitchcock se laisse aller au moment du tournage à des instincts, à des pensées de caméra, à des jeux d'acteurs qu'il essaie de prendre sur le vif, mais tout ça cadré dans quelque chose, dans un scénario, dans un synopsis, avec les dessins que l'on connaît d'Hitchcock. Alors, Eastwood, c'est pas aussi cadré qu'Hitchcock, mais il y a là quelque chose qui vient d'Hitchcock. Je renvoie à certains films, au premier film de Clint Eastwood qui est sorti aux États-Unis et qui s'appelle Play Misty for Me, qui est le premier film d'Eastwood où on a dit qu'il y avait là une plume, une caméra hitchcockienne. Bon. Alors, je le fais, c'est tout. C'est pas tout à fait du Hitchcock, bien que ce soit du Hitchcock au sens où Eastwood cadre ses scénarios, hein, il les bloque une fois pour toutes, hein, ceux qui écrivent pour lui sont souvent d'ailleurs des gens qu'il reprend de film en film, il cadre l'histoire, et ce cadrage de l'histoire permet après une certaine invention au moment même où il est en train de faire le film, un laisser-aller dans l'instinct, hein, qui fait que souvent dans les entretiens qu'il donne, il refuse hein, d'expliciter, ou il dit je ne peux pas expliciter complètement pourquoi je le fais. Je le fais, c'est tout. Bon. Alors, ce « je le fais, c'est tout », qui est peut-être un petit, la phrase, hein, la petite phrase d'Eastwood qui revient souvent dans ses entretiens, c'est aussi l'idée qu'il n'aime pas se référer à ce qui a été tourné par d'autres. Une espèce comme ça d'originalité, au sens où réaliser un film, ça impose de construire sa propre approche, de se fonder sur son propre instinct, ce terme d'instinct qui revient souvent. Hein, même s'il y a une influence sous-jacente. Alors, souvent, hein, dans les cahiers du cinéma, bon, qui sont toujours, il y a toujours des entretiens dans les cahiers du cinéma où on demande toujours le pourquoi du comment du film. Bon, et à un moment donné, quand on lit tout, il dit, mais je le fais, c'est tout. Je peux pas aller jusqu'au bout de l'explicitation. Vous me dites que vous voyez tel ou tel film. Pourquoi pas? Mais en tout cas, oui, il est vrai que je l'ai vu, mais je n'y ai pas pensé au moment où j'ai tourné. Bon, c'était le cas de Million Dollar Baby, où Eastwood dit bien qu'il n'a pas revu des films de boxe pour faire Million Dollar Baby, mais qu'effectivement, quand les cahiers du cinéma citent tel ou tel film, il dit oui, effectivement, j'ai vu il y a très très longtemps, mais je ne l'ai pas revu expressément pour faire ce film. Donc, un travail avec les instincts, Une influence sous-jacente qui paraît inévitable, mais parce que Eastwood dit « nous avons tous grandi avec des films ». Donc il y a quelque chose qui travaille un petit peu la part inconsciente de ce réalisateur quand il place sa caméra. Ce qu'on peut retenir de ce qui s'est dit la dernière fois entre Mystic River et Million Dollar Baby, on l'a bien vu, c'est que les films d'Eastwood concernent les rapports humains. Isabelle, la dernière fois, nous a bien dit, et ô combien justement, que Million Dollar Baby, ce n'est pas un film sur la boxe, mais véritablement un film d'amour. Bon. Et quel amour, hein, un amour filial, mais qui se réinvente complètement. Tu avais évoqué la dernière fois cette question d'une reconstruction de la famille, hein, d'un autre rapport filial et familial de la part de Maggie Mokouchler, qui trouve de la part de son entraîneur un père de substitution qu'elle a perdu, et lui va trouver une fille qu'il a perdue au sens où elle est bien vivante, mais en tout cas ils n'ont plus aucun rapport. Donc il y a là un travail des rapports humains dans les films d'Eastwood qui est, on peut le dire, absolument constant.
Et parmi ces rapports filiaux, hein, dans la filmographie d'Eastwood, Gran Torino est aussi
complètement
un grand œuvre, puisqu'on a là aussi, hein, la reconstitution d'une famille.
Complètement, voilà, d'une autre famille de la part de Walt, qui est...
Et de Tao, on va
voir. Et de Tao aussi, on verra tout à l'heure. Donc, des films qui concernent les rapports humains. Par exemple, bon voilà, Million Dollar Baby, c'est ce qu'on se disait. Bon, c'est aussi l'histoire d'un père éloigné de sa fille naturelle, hein, sa propre fille, et qui trouve une fille de substitution. Et à travers une relation qui est vue par Morgan Freeman, hein, qui représente un petit peu le public, hein, et qui raconte l'histoire de Million Dollar Baby. Voilà, donc il y a aussi chez Eastwood ce travail des rapports humains et un travail aussi, je crois qu'on l'a vu, sur la question de la mort. Pas seulement du mal et de la violence comme on l'a pu l'évoquer la dernière fois, mais un travail aussi sur la mort et sur comment on finit sa vie. Enfin, qu'est-ce que c'est que vivre et comment on donne un sens à sa vie. Alors on l'a vu la semaine dernière avec Million Dollar Baby, c'était très flagrant. Où Maggie demande au personnage qui est à Eastwood, qui joue le personnage de l'entraîneur de Maggie, de la faire mourir. Bon. Et on avait évoqué ce choix, c'est-à-dire vaut mieux une vie courte et pleine, hein, c'est le personnage de Maggie qui dit ça, j'ai eu tout ce que j'ai voulu, hein, même si ça a été très court, j'ai eu tout ce que j'ai voulu, je peux m'arrêter là. Donc il y a une espèce de posture, voilà, de par rapport à la vie où il vaut mieux vivre fort que vivre de manière molle, hein. Et on va retrouver ça aussi dans Gran Torino, hein, puisqu'il y a cette idée dans Gran Torino, mais ça je laisserai à Isabelle, mais quelque chose de sacrificiel à la fin, hein, de la part de Walt, qui lui aussi enfin est en paix avec lui-même et peut attendre la mort, et de quelle manière. Et Eastwood, à propos d'ailleurs de Frankie, dans le personnage qu'il joue de Frankie dans Million Dollar Baby, répond à une question du cahier du cinéma qui lui dit que dans ce film, dans Million Dollar Baby, Eastwood a l'air plus vieux qu'en réalité, presque comme une tête de mort. Alors ça, c'est moins visible peut-être sur nos écrans tout petits d'ordinateur ou de télévision, mais au cinéma, c'est assez flagrant. Hein. Il faudrait, d'ailleurs, Eastwood évoque ça à un moment... la nécessité peut-être de voir ses films au cinéma si on veut percevoir tout le travail qu'il fait aussi sur la lumière et les ombres. Il faut dire aussi que les cahiers du cinéma sont très sensibles à la manière qu'a de filmer Eastwood depuis le départ. Bon, vous savez que le succès d'Eastwood aux États-Unis est parti de la France, hein, puisque les cahiers du cinéma ont d'emblée vu en Eastwood non pas seulement un acteur qui prenait une caméra, mais véritablement un réalisateur en devenir. Bon, c'est venu de la France, Eastwood le dit. Il le reconnaît de la part des cahiers. C'est la France qui a permis à ce qu'il soit regardé autrement aux États-Unis. Bon. Pardon. Et donc, quand Eastwood parle de Frankie dans Million Dollar Baby, et effectivement de cette apparence de tête de mort, hein, du fait qu'il s'est soit vieilli, il dit, bah oui, Frankie, c'est une sorte d'histrion. Hein, il joue un rôle, il porte un masque. Mais pour le troisième acte de Million Dollar Baby, il est obligé de l'arracher, c'est-à-dire il est obligé de montrer cet amour qu'il a pour Maggie, hein, en lui avouant d'une part que veut dire Mokouche, hein, qui veut dire mon sang. C'est ça, mon amour.
Oui, mon sang, mon amour. C'est du gaélique, en effet.
C'est du gaélique, voilà. Alors, il y a dans Million Dollar Baby un rapprochement. Là, je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment des connexions entre les films d'Eastwood. Le rapprochement que font les cahiers dans cet entretien avec Eastwood, hein, cahier du cinéma de mai 2005, au moment de la sortie de Million Dollar Baby, les cahiers du cinéma font un rapprochement avec Bronco Billy. Hein. Alors, Bronco Billy, c'est l'histoire de quelqu'un qui possède un cirque, et un cirque qui raconte un peu l'histoire de l'Ouest. Et cet homme, Bronco Billy McCoy, propriétaire donc de cette espèce de spectacle itinérant sur l'Ouest sauvage, a des difficultés d'argent, n'arrive plus à payer ses employés, perd une de ses employées, jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre d'une femme abandonnée par son époux qui allait se marier. Donc, rapprochement entre Million Dollar Baby et Bronco Billy, que reconnaît Eastwood et sous quel mode? Parce que, comme Bronco Billy, Million Dollar Baby, c'est un travail autour d'un petit groupe de gens qui vivent en marge de la société, dans un coin perdu. Par exemple, ceux qui fréquentent le gymnase de Million Dollar Baby sont dans une situation similaire à ce cirque itinérant de Bronco Billy. Bronco Billy, dont je précise qu'il était sorti en 1980. Ils sont en marge de la société, ils sont dans un petit coin perdu, ils fréquentent les mêmes endroits. Ils sont dans une atmosphère comparable entre Bronco Billy et Million Dollar Baby. Mais Eastwood dit peut-être avec beaucoup moins d'humour dans Million Dollar Baby, avec un côté beaucoup plus tragique. Dans les deux cas, entre Bronco Billy 1980 et Million Dollar Baby, on est en 2005 si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça.
Voilà, ces gens vivent avec leurs rêves, mais aussi avec la peur d'accomplir leurs rêves. Hein. Il y a donc chez Eastwood un travail entre les rapports humains, hein, mais aussi, on l'a évoqué à l'instant, un travail sur les relations entre générations. Par exemple, nous le disions à l'instant, de familles qui se constituent, hein, et c'est ce qui de familles qui se reconstituent. Et c'est ça aussi qui intéresse Eastwood dans Million Dollar Baby. Et aussi dans Grand Torino, c'est pas la famille déjà existante. Hein. C'est vraiment une famille qui se crée de toutes pièces, hein, qui se crée par affinité, qui se crée par relation de discussion, d'entente, de travail, d'initiation aussi, hein, une initiation à la vie, à sa dureté, etc. Voilà, et on a vu la semaine dernière avec Million Dollar Baby comment Maggie Mokouchle était intégrée à la communauté irlandaise, hein, Frankie lui inventant une origine irlandaise, lui donnant tout un arrière-fond irlandais, une famille irlandaise, qui fait que Maggie se sent appartenir à une communauté. Hein. C'est le surnom Mokouchle que je vous citais à l'instant, que je vous donnais à l'instant. Et ça l'a fait sortir de quoi? De ses origines pecknaudes. Hein, en américain, on appelle hillbilly girl, hein, une pecknaude. Bon, eh bien, elle sort de cette origine hillbilly pour entrer dans une autre famille d'accueil, hein, une famille un peu imaginaire, un peu mystique, mise en place par Frankie, son entraîneur. Alors, pour en terminer un peu sur l'aspect vraiment filmage d'Eastwood, et avant de laisser la parole à Isabelle, et avant Isabelle de vous faire écouter une des chansons de Gran Torino, où on entend la voix d'Eastwood. Bon, je voudrais juste en terminer sur quelques thématiques du filmage d'Eastwood, notamment son rapport à la lumière, un rapport auquel je suis très sensible. Il y a là, dans les deux films que nous avons traités la semaine dernière, Mystic River et 2004 et Million Dollar Baby, 2005, des films qui évitent les couleurs vives. Hein, je cite Eastwood, des films qui évitent les couleurs vives. Eastwood dit d'ailleurs que ces films doivent ressembler, en tout cas il essaie, en tout cas à travers ces films-là, que ces films ressemblent à du noir et blanc, hein, en termes de lumière. Il voudrait qu'ils soient éclairés comme à l'époque du noir et blanc. Par exemple, dans Million Dollar Baby, les couleurs des costumes, dit-il, devaient être celles qu'on utilisait alors, à l'époque du noir et blanc. Voilà, avec cette idée qu'on essaie de ne pas, pour Eastwood, de ne pas dater précisément le film que l'on tourne. Alors, c'est très vrai pour Million Dollar Baby. Je crois qu'il y a quelque chose aussi à l'œuvre dans Mystic River à certains moments. Ne pas pouvoir dater, pouvoir dire à quelle époque se passe l'histoire, une espèce d'intemporalité ou atemporalité. Ça pourrait être en 1950, en 1960 et non pas dans les années 2000. Faire en sorte que l'histoire n'appartienne pas à une période particulière. Et la précision d'Eastwood suite à une question des cahiers du cinéma, c'est vraiment non pas tellement tourner en noir et blanc, mais avec la couleur, à travers la couleur, s'approcher du noir et blanc. Hein, d'ailleurs, il précise pour le troisième acte de Million Dollar Baby, le troisième acte de l'hôpital, hein, où Maggie est complètement clouée à son lit, Eastwood fait donc remarquer qu'il a presque entièrement supprimé les couleurs dans ce troisième acte. Bon. Donc des films sombres, hein, à l'image de ce qu'ils traitent, hein, de cet aspect tragique, hein, de cette relation du mal à la violence, de la justice à la vengeance. Hein, et là, je crois que dans Gran Torino, Eastwood a d'ailleurs atteint quelque chose, hein, puisque vengeance et justice légale peuvent se retrouver. Hein, la vengeance s'arrête là où la justice légale va pouvoir faire son travail. Là, il y a encore une progression dans Gran Torino. Donc, films sombres qui ont à voir avec les thématiques qui sont à l'œuvre. Une forme de tragédie, rapport violence, vengeance, justice, justice personnelle, justice légale. Voilà, tout un travail sur les cadres, sur la lumière et les ombres, sur les contrastes. Et nous dit Eastwood, avec l'ombre, tout semble bien plus intéressant que dans la pleine lumière. Voilà, donc c'est toute la question de la visibilité au cinéma et qui passe mal, effectivement, à la télévision, nous disent les cahiers du cinéma, et on l'a vu aussi, et confirme Eastwood. Donc, voilà, j'en termine sur ce « je le fais, c'est tout hein. ». Pas de règles toutes faites, nous dit Eastwood. Chaque film, dit-il, génère ses propres variations imposées par l'histoire qu'on raconte et la manière générale dont on entend l'approcher. Il y a donc toute une part à l'improvisation qui naît d'un cadre solide, hein, je le disais, mais aussi toute une pensée de la place de la caméra. Et je cite Eastwood, « Comme spectateur, je n'aime pas qu'on exhibe la réalisation. Dans Million Dollar Baby, la caméra se déplace beaucoup, mais très doucement. On ne se rend pas compte des mouvements. Je n'aime pas que la prise de vue soit telle que les gens pensent au réalisateur qui la dirige et à l'opérateur qui tient la caméra. C'est mon côté, cinéaste à l'ancienne, j'imagine. » Voilà, donc, place de la caméra, et en même temps, voilà, on pourrait continuer des heures et des heures, cette place de la caméra qui doit être invisible, moi, ô combien je partage cette approche hein, personnelle, qui fait qu'Eastwood est tellement touchant. Donc, cette caméra, elle doit pas être visible, et en même temps, vous remarquerez tout le travail sur les visages, hein, d'Eastwood, là, dans Mystic River, il y a des plans de visage absolument magnifiques, notamment sur le personnage de Dave, hein, quand il raconte à son enfant cette histoire des loups. Bon, il y a là des plans splendides, et pourtant la caméra est invisible. Voilà, je vais, avant de laisser la parole à Isabelle, ben on va écouter cette magnifique musique avec la voix. Alors, musique écrite par Clint Eastwood, Kyle Eastwood, entre autres, et Jamie Cullum, me semble-t-il. Voilà, une chanson qui s'appelle Gran Torino, et on entend la voix d'Eastwood, hein, première parole. Thank you.
and what you see, or what you've done, or will become. Standing strong, do you belong in your skin? Just wondering. Gentle mouth, the tender breeze blows, whispers through my Gran Torino, whistling another tired song. Engine hums and bitter dreams grow, heart locked in the Gran Torino. It beats a lonely rhythm all night long. It beats a lonely rhythm all night long. It beats a lonely rhythm all night long.
Realign all the stars above my head. The warning signs travel far. I drink instead on my own. Oh, how I've known the battle scars and worn out beds. Gentle nights and a breeze blows, whispers through Gran Torino. Whistling another tired song. Engines home and bitter dreams.
Voilà, nous voilà revenus à cette magnifique musique de Gran Torino dont je précise, bah oui, j'ai pris quand même des petites notes, hein. Gran Torino, donc j'ai pas dit de bêtises, elle est bien écrite par Clint Eastwood. Vous savez qu'Eastwood est un grand musicien. Il y a d'ailleurs, pour ceux qui ont la possibilité d'acheter ou de voir, il y a eu un concert il y a quelques années de toutes les musiques d'Eastwood. Eastwood était présent, il avait invité des jazzmen. Bon, on connaît évidemment son film Bird, qui ne connaît pas cet hommage à Charlie Parker, bon, voilà, qu'on peut lier aussi à Honky Tonk Man, bon, qui sont des films vraiment qui parlent de la musique et d'une musique bah, qui est née de l'esclavage, hein, pour Bird, et ou alors qui vient des entrailles de la terre américaine, la country music avec Honky Tonk Man. Donc Eastwood, c'est aussi un grand musicien, et là donc il a créé la chanson avec son fils, dont on sait qu'il est un grand jazzman aussi, hein. Il tourne en ce moment, je crois, dans le sud de la France. Là, il va être dans divers festivals de jazz. Kyle Eastwood. Et puis, Jamie Cullum, hein, qui chante aussi, qui vient après Eastwood. Voilà, bon, Isabelle, on a vu ce film Gran Torino toutes les deux. Moi, je l'ai vu hier jusqu'à 1h du matin en prenant des notes. Mon Dieu, quel film, non ? Est-ce que tu y vois des... Moi, j'y ai vu des continuités avec Million Dollar Baby, bah notamment si on peut commencer par rapport au début du film, le rapport à la religion. Peut-être faudrait un peu raconter. Bah,
Déjà, bon, moi, je reviendrai un peu sur ce qu'on vient d'écouter. Hein. Bon, tu l'as décrite, c'est une musique éblouissante. Et la voix. Alors, pourquoi je reviendrai sur cette voix qu'on entend? Parce que d'un point de vue philosophique, la voix est un phénomène. Et elle dit une réalité intime par une modalité sensible qui, dans sa vibration, manifeste une présence où se rejoignent, je crois, ce qui est un point essentiel du film, la blessure, la vulnérabilité, le dénuement, on pourrait même dire, et la force de résister, la force de surmonter ces blessures, de continuer à exister. Et là, c'est vraiment intéressant parce que il me semble qu'après avoir revu également Gran Torino, hein, pour la sixième fois,
ouais.
C'est un film dont on ne se lasse pas, mais qui est quand même dur à voir. y a une trajectoire du personnage de Walt Kowalski, joué par Clint Eastwood. Ce vétéran de la guerre de Corée qui a été employé toute sa vie dans les usines Ford, qui est à la retraite, hein, voilà, dans la banlieue de Détroit, une banlieue qui est devenue un ghetto d'immigrants, en fait, hein, habité principalement par une communauté qu'on appelle les Hmong.
Oui, H-M-O-N-G.
Voilà, voilà. Et qui ont été des combattants aux côtés des Américains durant la guerre du Vietnam, donc rejetés par la communauté vietnamienne, quoi. Et donc, c'est un homme amer, acariâtre, inflexible. On le voit vitupéré, plein d'imprécations contre ses petits-enfants, ses fils, ses voisins.
Ouais, un brin xénophobe, pas raciste, mais un brin xénophobe au départ, en tout cas avec des blagues, voilà, un petit peu limites. Hein. Bon, il fait un peu exprès de ne jamais bien prononcer les prénoms, il leur redonne des surnoms un peu comme...
Des surnoms que moi je qualifierais carrément
de racistes,
parce que les surnons sont quand même tête de nem, rat de marée, face de citron.
Voilà. Donc, mais ce qui est intéressant, ce qui est très beau, c'est que tout au début du film, il y a donc effectivement ce personnage de Walt Kowalski qui est joué par Eastwood, qui est, moi j'ai vu en version originale hier, c'est vraiment avec le travail d'Eastwood sur la voix, sur la drôlerie.
Exactement.
Il y a beaucoup d'humour, il se moque de lui. Alors là, il y a évidemment toute une déconstruction du héros, western, hein, du héros tel que l'a porté le western américain. Mais Eastwood travaille sur la déconstruction du héros. Bon, il y a d'autres acteurs qui vont retravailler ça après. Par exemple, Johnny Depp, dans sa grande époque, avait repris un peu ça. Mais maintenant, Johnny Depp ne fait plus rien d'intéressant. Mais Eastwood a toujours gardé ça. C'est-à-dire comment je me détruis moi-même en tant que héros qui a été un héros du western, etc.
Bon. Il y a une autodérision.
Complètement. Hein, voilà. Et là, ça se voit dans ce film. Alors, je reviens à cette scène de l'entrée, d'une forme de premier acte aussi, de présentation,
oui,
de ces communautés qui...
Voilà.
Et puis, de ces communautés qui s'affrontent. Parce que lui, en tant qu'Américain, vitupère les Hmong, et la femme vieille Hmong qui vitupère aussi cet Américain, qui est un des derniers Américains qui reste dans le quartier, le quartier dédié aux immigrés. Bon, il y a quand même, on voit que c'est entre les communautés, là il y a un travail sur les communautarismes américains, hein, voilà, ouais. Où les communautés entre elles ont quand même ont toutes, alors là, c'est un peu la phrase de Claude Lévi-Strauss, bon, l'ethnocentrisme est la chose la mieux partagée du monde, quelque chose comme ça, mais là on voit très bien que les communautés entre elles, bon, elles ont toutes un peu leur racisme en elles, bon, hein, et ça c'est avec une forme d'humour. Il y a aussi les latinos, bon, qui sont des gens très très durs, qui rejettent aussi. On est vraiment dans une espèce de tension entre ces communautés. Et ce qui est beau dans ce film, c'est que ces communautés, enfin, en tout cas entre les Hmong et Clint Eastwood et l'Amérique, il y a une forme de réconciliation, enfin, au fur et à mesure. Enfin,
oui, c'est pour ça que je parlais d'une trajectoire du personnage
complètement.
Dans ce film. C'est tout à fait ça, en fait. Hein. Walt Kowalski va vivre une véritable conversion par la rencontre avec les jeunes Hmong, hein, Sioux et Tao, ses voisins. Et c'est une trajectoire initiatique, on peut dire, vraiment. Il passe de la misanthropie à l'ouverture à l'autre.
Complètement.
De cette scène première... où, en fait, il ne fait que parler à sa chienne.
Oui.
Mais il se referme sur lui dans un repli destructeur, mais qui, on le sent, hein, cache des blessures, sinon ce serait qu'un vieux con, quoi.
Oui.
Donc, il est, si vous voulez, très plein de ressentiment. Et il va peu à peu lâcher ça. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce film, c'est que ça se fait par des étapes. Et il y a quelque chose qui m'a aussi plu, et ça fait partie de l'humour dont tu parlais, Nathalie, c'est le rapport à la nourriture.
Oui.
J'ai trouvé ça génial, moi, en voyant le film. Au départ, il dit c'est quoi ces saletés là, et il jette tout à la poubelle.
Ouais.
Et puis cette scène où il devient un peu le héros du quartier malgré lui.
Oui, parce qu'il a défendu, Tao.
Voilà.
Hein, voilà.
Et où il reçoit plein d'offrandes, il dit c'est quoi ce bordel là, qu'est-ce que je vais foutre de tout ça. Et en gros, après, au moment de la fête. Voilà, il s'arrête plus de manger, il dit mais c'est super bon en fait, ouais. Mais gardément, attention, gardément.
Et c'est très beau d'ailleurs ce moment de la fête. Alors je disais tout à l'heure, la caméra doit être invisible quand les gens regarderont Gran Torino de nouveau, j'espère, en nous écoutant. Ouais. Regardez bien la manière dont il filme la scène, justement où il est invité par la jeune Sue. C'est une espèce de fête de famille, elle l'invite, elle lui dit venez, etc. etc. Et regardez comment c'est une fête de baptême en fait. Hein. C'est un petit enfant qui arrive dans la famille. Donc il y a toute une fête, toute une manière de baptiser entre guillemets l'enfant Hmong. Et la manière dont la caméra d'Eastwood est placée, elle bouge. Hein, elle bouge au moment où des formes de petits osselets sont lancés par un chaman, hein, une sorte de chaman en tout cas, une sorte de prêtre des Hmong hein, qui parle un petit peu de l'avenir de l'enfant, souhaite qu'il vive vieux et va vivre vieux, etc. Très très beau moment où Eastwood filme en faisant un petit peu voilà vraiment des zooms hein, sur cette pratique culturelle, parce qu'en fait ce qu'il découvre le personnage Walt joué par Eastwood, c'est la différence culturelle, comment vivent ces communautés, quelles sont leurs coutumes, et c'est ce qui fait comme tu le disais à l'instant qu'il va s'ouvrir à autre chose que lui-même et qu'il va trouver une autre famille, là où avec sa propre famille il n'a pas de relation, et il n'a pas de relation aussi, pourquoi ? Parce qu'on le voit comme un vieux, alors que dans cette communauté on ne le voit pas comme un vieux, on le voit comme un justicier, on le voit comme une bonne personne, hein, quelqu'un qui est du côté du bien, qui a aidé Tao, voilà, même si Tao a fait des bêtises, il a voulu voler la Gran Torino, bon, parce qu'on l'a obligé... dans une sorte d'initiation d'entrée dans un gang, on lui a donné comme but de voler la Gran Torino, cette magnifique voiture de 1972 faite par les usines Ford que possède Walt. Donc la propre famille de Walt le rejette, ne le voit que comme un vieillard. Hein, y a des scènes magnifiques où il ne le voit plus comme un homme qui a quand même fait la guerre de Corée, qui a quand même vu la mort en face. Il le voit comme quelqu'un qui doit finir sa vie en maison de retraite.
Oui, oui, et puis Tu dis ça et c'est intéressant, les petits enfants qui lors de la première scène, l'enterrement de leur grand-mère, sont très intéressés en fait, et elles ne sont attirées que par les objets de consommation, puisque l'un dit bah tu me laisseras quand tu mourras ta Gran Torino, et la petite fille qui arrive complètement débraillée à l'enterrement de sa grand-mère et avec son portable, qui lui dit, voilà, moi aussi, j'aimerais bien avoir ton canapé, tout ça. Donc, en fait, c'est juste un tiroir-caisse, le grand-père, on se dit, et quelqu'un qui va léguer après sa mort, c'est bien. Alors, dénonciation de la société américaine.
Complètement.
Aussi,
et puis, ce personnage-là, bon, il faut... Alors là, c'est quelque chose que moi, j'admire profondément, parce que Eastwood, il ne cesse pas de se filmer vieux. Alors, on a dit quelque part, je crois que c'est dans les cahiers du cinéma, mais c'est très juste, il a, dans ce film, filmé sa propre mort. Bon, mais enfin, il est dans le cercueil à la fin. Il joue Walt, bon, mais il a déjà filmé sa propre mort. Donc ça, on peut dire, c'est fait, je me suis filmé mort. Mais c'est vrai qu'Eastwood travaille sur sa vieillesse. Il ne se grime pas, il en surrajoute. Il montre qu'il est vieux, et là, c'est un film d'un vieux, de quelqu'un qui est vieux, mais vieux dans le sens où il a quelque chose à transmettre aussi, que ce soit des fêlures aussi, des failles, des impossibilités, pas forcément de la force, hein, c'est toujours ambivalent chez Eastwood, et il y a aussi dans cette vieillesse le fait que Eastwood est en train de montrer qu'il y a là quelque chose d'un passage possible entre les générations. Bon, et ça, c'est très beau, ce vieux, il a le temps et il voit tout et il observe la société américaine qui dégénère, qui n'a plus de code. Hein. Il y a ces jeunes qui passent dans la rue, une dame fait tomber ses produits, des courses, ses oranges, etc., etc. Les trois jeunes passent derrière et font des signes obscènes. Et qui c'est qui vient aider la vieille personne ? C'est Théo, voilà, qui n'est pas américain au sens natif du terme, qui arrive sur ce territoire d'une autre culture et qui, lui, a encore cette idée du respect. Donc il a le temps, ce personnage, il a le temps d'observer, il a un regard très critique sur cette société.
Oui, et la vieillesse Tu as raison, Nathalie, d'y revenir, parce que cela participe pour moi également d'une dénonciation de la société, des sociétés contemporaines, des pays riches, hein, au fond, où seule la jeunesse
à droite citée.
Voilà,
est valorisée,
prioritaire, valorisée. Il faut rester éternellement jeune, on nous vend des cosmétiques pour rajeunir. Et je trouve qu'il faudrait revenir à la vieillesse. C'est pour ça que je dirais à nos chers auditeurs de relire au fond les philosophes stoïciens. Et notamment au sujet de la vieillesse de Cicéron. Un très très beau texte hein, qu'on peut trouver en poche. Et où Cicéron parle de cette sagesse de ce temps de vieillir et de la manière la plus... libératrice d'accepter par la vieillesse de se préparer à mourir. C'est pas du tout morbide, au contraire, puisque c'est intéressant et c'est pour ça qu'il y a un vrai mouvement, un vrai grand œuvre hein, dans ce film.
Absolument.
C'est un mouvement de la vie à la mort.
Complètement.
De renaissance donc aussi.
C'est la mort qui affirme la vie.
Voilà, exactement. Ouais. Et en plus, c'est tout à fait ce que reproche hein, Walt Kowalski au prêtre. Il lui dit, mais attends, t'es qu'un puceau, tu connais rien à la vie, tu connais rien à la mort. Moi, j'ai vu la mort en face. C'est ce que c'est donc que la vie. Et au fond, c'est intéressant parce que à la fin, quand le prêtre enterre Walt Kowalski, en tout cas prononce cette messe d'enterrement, il dit, il avait raison de me dire ça. Parce que grâce à lui, j'ai compris. Il y a aussi hein, une conversion du prêtre. Et c'est intéressant parce que ce prêtre de la communauté catholique, il va un peu faire pendant au chaman que Walt Kowalski rencontre. Et cet homme qui ne dit rien, mais qui parle à Sioux, et Sioux traduit. Hein,
ouais.
Et là, effectivement, Walt est complètement interloqué. Il lui dit, tu caches en toi des blessures, tu es complètement enfermé en elles, libère-toi.
C'est le seul. Et alors, ce qui est drôle, c'est que c'est magnifique. C'est le seul qui a vu l'âme de Walt.
Exactement.
C'est quelqu'un qui est issu d'une autre communauté. C'est celui qui est étranger. Et c'est celui qui est issu d'une autre religion. C'est-à-dire, il y a là une grande force et il en est troublé. Et là, c'est une des premières conversions de Walt à autre chose que lui-même.
Oui. Oui, oui. Et on sent, hein, tu parlais du filmage de Eastwood tout à l'heure, on sent dans cette caméra qui est discrète, pudique, hein, qui ne se fait pas omniprésente et omnipotente, une place laissée au visage. Cet autre phénomène qui, comme pendant la voix, dont on parlait avec cette belle... musique chantée par Eastwood, une force de présence qui dit l'homme dans ses rides, dans ses souffrances, dans cette incarnation qui, dans la pesanteur et la grâce, au fond, traduit sa manifestation existante, son être au monde, ce phénomène du visage où l'autre se fait vulnérable. Hein. Disait déjà Lévinas, dans totalité et infini, il n'y a plus de totalité, il y a un infini, il y a une ouverture, justement. Et cette ouverture, c'est celle même de la grâce, c'est-à-dire de la gratuité, de ce qu'on donne par affinité élective, par amour véritable, et non par amour intéressé, si tant est que ça ne soit pas un oxymore. Mais oui, ce que je dis là, c'est au fond tout ce qui va se passer dans le cœur de Walt Kowalski dans le film et qui va le faire lâcher prise.
Complètement. Et c'est vrai que pour en terminer ouais. peut-être avec la vieillesse, mais c'est vrai que ce film est vieux. Travailler avec des personnages vieux, c'est aussi montrer que la vieillesse, c'est l'expérience. Bon,
ouais,
c'est une
ouais.
certaine expérience. Mmh, et que le jeunisme se définit, par définition, par nature, par manque d'expérience. Bon, et c'est cette expérience, et quelle expérience hein, la guerre de Corée, où Walt Kowalski, à un moment donné, vers la fin, hein, quand il enferme Théo chez lui pour l'empêcher ouais. d'aller se venger. Hein, là encore, c'est très beau. Tous les gens qui voient Eastwood sur le mode de la vengeance, c'est comme un reflet de la société américaine qui fait sa loi, ne voit pas, hein, parce que dans Grand Torino, il montre l'inverse. Il enferme l'enfant pour l'empêcher d'aller se venger, d'aller venger le viol de sa sœur. Hein, il l'enferme, et là, à un moment donné, Walt lui dit « Tu es mon ami, mais je veux pas te faire vivre ce que moi j'ai vécu. J'ai tué une trentaine de personnes, hein, dit-il dans le film, j'ai tué 30 personnes, et ça, tu t'en remets jamais. » Et c'est ça là. C'est ça la blessure, c'est ça l'expérience de Walt, et c'est ça qu'il ne veut pas transmettre à Théo. Il veut pas lui transmettre ce que c'est que de tuer quelqu'un. Oui,
pour voilà. Moi, c'est la plus belle scène du film.
Tout à fait, c'est
magnifique.
Quoi,
cette scène finale, quand il lâche tout.
Oui.
C'est-à-dire qu'il lui, il avoue. C'est un aveu libérateur, hein, au fond. C'est ça, son acte final de renaissance.
Complètement. Comme dans Million Dollar Baby.
Exactement. Hein. Il lui avoue avoir tué un jeune qui n'avait rien demandé.
Ouais.
Et il l'a vu mourir et il lui dit, hein, « J'ai pas envie que toi, pour ta vie, tu portes ce poids-là. » C'est magnifique.
Ouais, c'est une
ce cadeau.
Très très belle scène. Alors évidemment, il faut malheureusement qu'on accélère, mais c'est terrible. Il nous reste très peu de temps, mais voilà, Eastwood, c'est comme ça. Dès qu'on commence, c'est terminé. On s'arrête plus. Mais il y a vraiment. Alors moi, j'ai relevé quelque chose qui m'a énormément touché. Ça m'avait touché il y a quelques années quand j'avais vu le film. Mais voilà, bon, je crois Eastwood dépasse encore quelque chose dans le rapport à la vengeance et à la justice entre ces deux rapports, puisque effectivement, Eastwood va venger Sue. Mais de quelle manière ? Il la venge sans armes. Et c'est très beau. Alors, je rejoins avec Mystic River, parce que Mystic River, on se souvient, Dave, comment à la fin, Dave avoue quelque chose qu'il n'a pas fait. Parce que Dave dit dans le film, dans Mystic River, « Je suis mort. L'enfant qu'on a enlevé à l'âge de 11 ans est mort. Je ne suis jamais revenu à la vie. » Donc, on pourrait comprendre dans Mystic River, Dave avoue à Jimmy un meurtre qu'il n'a pas commis parce qu'il est déjà mort. Donc il va à la mort. Et mais là, il y a quelque chose de beaucoup plus positif dans Grand Torino, puisque Walt va à la mort, fait, alors par contre, accomplit une vengeance, hein, mais une vengeance sans armes, et il affirme à travers cette vengeance sa vie. Pour une fois, il est en paix avec lui. Alors ce qui est très beau ces derniers instants, il se prépare à la mort comme on prépare le corps d'un mort. Hein, quand on prépare le corps d'un mort dans la tradition chrétienne, bon, on lave le mort, on lui met son plus beau vêtement, on le coiffe, on le rend propre, on le rend beau. Et ça, là, le personnage de Walt joué par Eastwood le fait. Hein, il se prépare et il se fait un rasage qu'il n'a jamais fait. Il se fait une belle coupe, il choisit un beau costume. Il laisse sa chienne à la vieille dame Mong. Hein, la vieillesse, vieillir, c'est quelque chose, voilà, de transculturel. Hein, bon, ils vieillissent de la même manière l'un et l'autre. Bon, il y aurait tellement de choses à dire. Il se prépare à la mort, il se prépare au sacrifice, et c'est une vengeance sans armes. Il faut quand même le signaler dans les films d'Eastwood. C'est quand même assez extraordinaire. Là, on a un contre-pied complet de Mystic River, par exemple. Hein.
Oui, voilà. Et c'est important parce qu'il mime souvent le revolver.
Complètement. Et il ne l'a pas.
Et cette scène finale est
majestueuse.
Quand elle est filmée aussi avec beaucoup de lenteur. Hein.
Complètement.
Et on est dans cette présence verticale.
Du gang, c'est très beau ce que tu dis. Il y a la présence verticale du gang. Il y a Eastwood qui est dans une présence beaucoup plus horizontale. Il est à terre. Hein. Il est beaucoup plus en bas. Il est vraiment ancré dans le sol.
Alors je ne parle pas de présence en hauteur. Non.
Moi c'est la
verticalité. Je l'entendais plutôt de la part d'Eastwood, c'est-à-dire qu'il est droit.
Ah oui,
c'est ce qu'il fait.
Tout à fait.
Cette verticalité-là, moi, j'entendais davantage. Oui.
Mais dans le plan, tu vois bien, il y a le gang qui est dans, voilà, hein, dans le plan, il y a vraiment le gang qui est un peu en hauteur. Eastwood qui est un peu en contrebas. Et effectivement, bon, tant pis, on raconte la scène, mais il met sa main. Il les provoque. Il les provoque pourquoi ? Parce que tout le monde va voir qu'il a été assassiné. Mais encore mieux, il n'avait pas d'armes sur lui. Donc il est sûr par là, non seulement bon, d'être mort, hein, puisqu'il provoque le gang, hein, il provoque le gang pour venger le viol de Sue, il provoque le gang sans armes pour que tout le quartier voie cet assassinat. Et donc qu'il y ait probablement des témoignages, mais qu'en plus, on ne puisse pas dédouaner le gang en disant, de toute façon, ils étaient peut-être aussi en position de légitime défense parce qu'il avait une arme. Et sa seule arme, c'est quoi, en fait, ce qu'il fait semblant de sortir ? C'est un briquet qu'il a depuis la guerre de Corée.
Oui. Hein, que, voilà. Et ce qui est intéressant aussi, parce que tu en parlais dans la première demi-heure, c'est ce caractère très philosophique du film, au fond, puisque la vengeance du western, où on se fait justice, où il y va d'une loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, on passe à la justice au sens où l'entend, au fond, l'essence même du juste, dont parle Platon, déjà, dans la République, mais aussi Aristote. Donc il y a du Platon et de l'Aristote dans ce film, si je puis dire, parce que de l'idéal de justice porté par Walt Kowalski à la pratique de la justice qui n'est pas toujours possible dans nos sociétés et dont parle dans l'Éthique à Nicomaque au livre 5 Aristote, on a l'impression que ce personnage fait le lien entre les deux. Je dis fait le lien parce que il est dans cet acte-là sûr que la légalité pourra s'appliquer. Parce que sinon, la loi est au fond défaillante. Hein. C'est ce que dit effectivement Aristote en Éthique à Nicomaque et plus tard Thomas d'Aquin en reprenant Aristote. Au fond, on a ici des affaires de jurisprudence. Quand la loi ne peut pas statuer sur les cas particuliers, eh bien il faut un juge. Et là, la présence d'Eastwood, elle est verticale pour moi justement précisément parce qu'il est dans un passage, une conversion là encore de l'idéal à la pratique, à l'incarnation de la justice. Et il y a beaucoup plus de justice là que dans la vengeance.
Hein, complètement.
Comme le montrera déjà, enfin plus tard encore, Hegel dans les principes de la philosophie du droit.
Complètement. Donc il faut qu'on en termine, voilà. Mais voilà, il y a quelque chose dans le sacrifice de Walt à la fin, l'idée qu'il va racheter aussi ses crimes de guerre. Enfin voilà,
oui.
Il y a une double entente de
et
ça.
Puis,
voilà.
Et puis terminons quand même sur la transmission. Voilà, il
oui.
donne sa grande Torino à Tao.
Oui.
Et on voit cette scène finale où Tao conduit la voiture
sur une route américaine.
Sur une route américaine.
La voiture, symbole de la liberté. voilà.
Et va vers sa vie, surtout.
Complètement, absolument. Très, très beau plan, avec une très belle musique. On retrouvera des plans comme ça, magnifiques, de pure gratuité, route, musique américaine, issue de la musique country, dans
yes.
The Mule. Voilà,
ah,
qui est
ouais.
aussi un film où là, Eastwood se fait plaisir. Plan de route et musique. Mesdames et messieurs, il faut qu'on vous quitte, il est 10h01, il faut qu'on rende l'antenne. Eh bien voilà, on a été ravis de cette première année, hein, Isabelle, philosophie au présent. Voilà, on a donné le meilleur de nous-mêmes, on va essayer encore de donner encore plus l'année prochaine, on ne sait pas. Quel jour dans la semaine, on verra, on va décider ça selon nos emplois du temps.
Et on sera heureux de vous retrouver, chers auditeurs, on remercie notre fidèle Gilles
qui est derrière,
Gilles,
voilà,
qui est derrière.
Gilles Brézard qui est derrière aux commandes et qui ne nous dit rien car nous avons dépassé d'une minute et qui nous suit, voilà, hein, voilà. Et puis merci à Radio Aligre et merci au Collège
merci
International de Philosophie,
Collège
voilà.
International, à Isabelle
Alfandari, voilà notre président de l'Assemblée collégiale qu'on salue bien, c'est sa dernière année de présidence et c'est grâce à elle qu'on a pu nouer ce partenariat Aligre. Voilà, et Collège International de Philosophie. Ben, on vous souhaite une très bonne journée, un très bon été, chers auditeurs, et puis à la rentrée. Merci beaucoup.